Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans le numéro 112 de Famille, Justice, Enfance avec Stéphane sur RLP depuis Périgueux en Dordogne. Aujourd'hui, seconde partie de l'entretien exclusif avec Maître Jean Panier. Entretien, discussion qui tourne autour des dysfonctionnements et des problèmes de la justice familiale et des enfants, le JAF et le JDE, et tout ce qui tourne autour. En effet, au XXIe siècle en France, en 2022, nous avons encore 20% des papas qui perdent le lien après leur enfant, après leur divorce, et 40% des enfants de moins de 25 ans issus d'une union rompue qui ne voient leur père que rarement ou jamais, contre 15% leur mère. Notre société produit donc des familles monoparentales féminines dysfonctionnantes. Et naturellement, les personnes qui n'ont pas grandi dans une famille structurée en présence de leur père ou dans un environnement traditionnel, alimentent également les services sociaux et la magistrature, car il n'y a pas d'enquête pour savoir si un juge aux affaires familiales, qui est une fonction qui n'est pas choisie, ou un juge des enfants, a des enfants, a été élevé dans une famille traditionnelle, normale, fonctionnelle, de même pour les experts et les enquêteurs des services sociaux qui alimentent le flux continu d'enfants à envoyer au juge des enfants, aux AEMO et aux placements. Cette situation entraîne un grand nombre de suicides de manière annuelle, donc 1300 pères ont été identifiés comme ces suicidants chaque année parce que leur demande légitime de relation suivie et pérenne avec leurs enfants leur a été refusée, mais ce sont ceux qui ont motivé leur acte, et si on étend ceci aux parents de manière générale qui sont confrontés à la justice des enfants et aux interventions sur les enfants, nous avons un chiffre qui est vraiment très largement sous-estimé. Autre point noir, une enquête récente nous montre qu'en France actuellement, seuls 12% des enfants issus de couples séparés vivent en résidence alternée, c'est-à-dire que le système continue d'oblitérer l'un des deux parents en cas de séparation, surtout quand les parents ne s'entendent pas en fait. Il est toujours extrêmement difficile d'avoir des statistiques et on se demande encore pourquoi chaque tribunal applique la loi de manière un petit peu différente par rapport à son voisin et surtout par rapport à la volonté du législateur qui était définie à Paris. Néanmoins, s'il y a un consensus, c'est d'accompagner les victimes, d'entériner l'existant et de produire des familles monoparentales féminines avec des enfants qui sont exclus de leurs parents malgré les accords internationaux tels que la CIDE, les droits de l'homme et les autres. Il faut également noter que ce problème touche également les nouveaux types de couples de la modernité, car comme nous l'avons vu ici même avec quelques invités, la problématique de ces nouveaux mariages avec enfants est encore plus importante que chez les groupes traditionnels, car ils ont des problèmes de reconnaissance de droits et en cas de séparation, l'exclusion parentale est encore plus sévère que dans les couples traditionnels. Nous avons donc effectivement un énorme problème de respect des droits parentaux, qu'ils soient naturels ou reconnus par l'adoption. C'est massif, c'est national. C'est donc de ceci que nous allons encore parler aujourd'hui avec Maître Panier. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors Maître Rama sur cette antenne nous disait qu'effectivement il fallait, alors j'ai employé ces mots, il faut leur rentrer dedans, il faut secouer le cocotier et autres. Nous avons le problème des petites juridictions où il y a 50, 60 avocats inscrits au barreau, il y a un juge des enfants, parfois deux. Les juges des affaires familiales sont des magistrats nommés en septembre suivant les demandes. Ils n'ont jamais demandé à être là. Ils sont juristes, on les met là parce qu'il y en manque et autres. Et puis là, ça ronronne avec des gens qui travaillent ensemble durant 20 ans, 25 ans, qui passent leur week-end ensemble et autres, et qui ne se remettront jamais en question les uns les autres. Et là, on arrive là-dedans. Quelles sont nos chances?
Alors, le drame, c'est que les juges sont malheureusement obligés d'accepter. Quand il y a une demande en justice, ils sont obligés de la traiter. C'est pas comme au pénal où un juge a le droit de rendre une ordonnance de refus d'informer, ce qu'ils ne font d'ailleurs jamais, mais ils ont le droit. Bon, si déjà le juge disait aux gens « allez jouer ailleurs, essayez quand même de vous calmer, sinon je peux prendre des mesures », mais ils sont incapables de parler comme ça. Donc ils vont perdre un temps fou pour écouter les âneries de celui qui a lancé l'offensive. Alors après, je veux pas critiquer mes confrères, mais il y en a qui trouve ça intéressant parce que ça fait marcher le tiroir caisse, faut savoir ça aussi. Au lieu d'apaiser un peu, il continue, il dit ça fait tourner la machine.
L'avocat est un prestataire qui vend des actes, nous on le voit dans le département, les NRE ils les prennent pas, et puis accompagnement de victimes au JAF ils les prennent, et la défense par contre des personnes soutenues par l'associatif, donc par l'idéologie, peut chez certains représenter 30 à 40% de leur chiffre d'affaires.
Donc c'est encore une fois un constat d'échec parce qu'on ne prend pas le problème là où il faudrait l'attraper, c'est-à-dire faire secouer les colonnes du temple. Ce que j'appelle les colonnes du temple, c'est la justice. La justice ronronne tranquillement parce qu'elle sait qu'en l'état actuel, elle ne risque rien. Il n'y a pas de responsabilité. On ne parle même plus de forfaiture maintenant. Je crois que le mot a disparu dans le catalogue du pénal pour des crimes contre les juges. Vous voyez, on en est là. On ne peut même plus les attaquer de front.
Oui, alors comment fait-on lorsque quelqu'un se comporte mal ou rend un jugement qui n'est pas reposé sur du droit ou qui n'est pas applicable ou qui vous accuse sans fondement durant une audience ou qui a des comportements déplacés? Quels sont les recours pour le justiciable?
La suspicion légitime.
C'est-à-dire?
Vous déclenchez une procédure de suspicion, qui est un boulot assez fatigant, même pas sûr d'y arriver. Le juge est suspecté, normalement il doit se déporter. Et puis, c'est soumis à l'avis de la hiérarchie judiciaire qui va regarder, va dire non, il n'y a pas de raison, c'est un bon juge, il a bien fait son boulot. Ils se couvrent entre eux, bien sûr.
C'est-à-dire, on envoie un recommandé au directeur du tribunal?
On déclenche c'est comme une plainte, vous faites contre un magistrat, vous dites, suspicion, le mot est clair, suspicion légitime.
D'accord, et vous envoyez ça à qui?
C'est l'avocat qui va lancer la procédure.
Donc il faut payer un avocat pour le faire, et dans le département, il ne le fera jamais.
Oui, mais il va vous déconseiller de le faire, parce qu'il va vous dire que ça ne sert à rien.
Oui, et puis il ne veut pas non plus se mettre à dos la personne, seul juge qui le reçoit durant les 20 ans de carrière qui lui reste à faire.
Le courage n'est pas la vertu la plus répandue.
Donc si on veut faire sans avocat, on envoie le recommandé où?
Non, mais c'est l'avocat qui fait le boulot. Il connaît le chemin pour faire placer une demande de suspicion légitime. Si vous regardez dans le code de procédure civile, je sais même plus d'ailleurs dans quel code ou procédure pénale. Non, ça doit être civil. C'est une suspicion contre un magistrat qui vous paraît qui fait pas bien son boulot, qui a un comportement tout à fait étonnant. Et ça a dû marcher un certain nombre de fois quand un juge a été débarqué. Mais il fallait vraiment qu'il en ait fait beaucoup pour arriver à le faire tomber. En général, ils se couvrent entre eux.
Qu'est-ce que vous pensez de cette obligation à utiliser un avocat dans les cas de divorce, par exemple, ou dès que l'on s'approche de choses un peu tendues, un peu compliquées à faire dans la justice? Pourquoi est-ce que, sachant qu'à l'aide juridictionnelle, ils ne travaillent quasiment pas parce qu'ils ont 480 euros, ce qui est très très bas?
Évidemment.
Donc il faut comprendre quand même, si vous voulez.
Un magistrat qui a déjà des années de bouteille, déjà, faut pas donner ça à des gens qui débutent parce que c'est trop sérieux. Un gars qui est un papa raisonnable, il va gérer ça tout seul. Il va bien voir le malice qui est un peu aiguisé, un peu affûté pour comprendre qui a lancé l'offensive et comment on peut l'arrêter. Faire peur à celui qui, en disant « Non mais attendez, vous êtes venu pour me raconter cette chanson-là, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes la première à me raconter ça ?» Alors à ce moment-là, la personne sent que « Bon, il faudrait peut-être mieux essayer de se calmer un peu et d'arriver à retrouver une relation normale avec les enfants. » Un juge qui a du caractère et de la personnalité, il peut le faire tout seul. Il peut le faire tout seul. Il préfère se cacher derrière les experts. Ou alors, c'est pas la peine d'être juge, quoi. C'est pareil. Si un juge a vraiment bien compris son métier, il est capable de faire ça pour ne pas se laisser noyer par des échanges d'écriture, des témoignages qui s'annulent les uns les autres, mais c'est n'importe quoi. Et puis ça change pas, chaque année c'est pareil, on empile des dossiers d'arguments qui sont frelatés, qui sont bidons, pour simplement parce qu'on n'a pas le courage de dire « bon arrêtez, ça nous mène à quoi ?» Non, il faut de la fermeté. Alors, et puis vous savez, les parties le sentent bien quand le juge est en colère, qui dit « bon madame, ça... » Ou monsieur, ça suffit, vous prenez un chemin là qui est pas bon pour votre enfant, il faut arrêter ça. Bon, elle s'y attend pas, parce que l'avocat l'a encouragé en disant « oui, allez-y, je vais vous suivre ». Oh là là, quelle déception de voir que c'est tellement toujours la même chose, ça bouge pas. Alors les jeunes juges, quand ils arrivent, ils prennent un peu le vent, ils regardent comment font les anciens, puis la plupart ils font pareil, c'est pas... Donc il faut vraiment secouer le cocotier, et pour ça c'est un boulot de communication à haut niveau, au niveau national.
RLP
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Certaines personnes nous disent, si vous habitez un département rural avec un écosystème où tout le monde se connaît, n'hésitez pas, faites un investissement, faites venir un Parisien ou quelqu'un d'un autre département qui, lui, n'aura pas de scrupules à secouer les colonnes du temple. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, bah, ça dépend sur qui vous tombez, hein, parce que il y a aussi des gens qui sont... Bon. Ils ont une mentalité, c'est la pensée unique hein, dans ces milieux-là. C'est... Et puis d'ailleurs, on écoute des gens comme ce Lopez là qui venait pérorer dans les conseils.
Ou le juge Berger aussi. Hein, qui...
Oh là là, mais attendez, quand on écoute ce monsieur, on se dit, mais c'est pas vrai, personne va le croire, personne va l'écouter. C'est que de la doctrine, c'est que... Non mais c'est et ça lui il va monter dans les circuits politiques etc et il va finir par endormir des gens qui savent même pas de quoi on parle parce que ça va jusque là lui il parle il se glorifie d'abord il s'écoute parler il est très impressionnant il a un langage ésotérique que tout le monde ne comprend pas oh les gens disent formidable ce mec il a dit des choses ils ont rien compris mais c'est pas grave voilà on en est là. Pardon, monsieur Lopez, hein, mais je vous ai fait sortir un jour d'une réunion au barreau de Paris. C'était pas triste. Enfin, bon, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça.
Vous critiquez aussi également beaucoup la justice de couloir et vous dites que contrairement à ce que l'on croit, les gens se parlent entre eux en dehors des audiences, alors que normalement le juge
sans
est
arrêt,
dessaisi.
Sans arrêt.
Le juge est dessaisi en dehors de l'audience, il n'a pas à s'exprimer.
Alors, oui,
le droit
mais
est une notion écrite, elle n'est pas orale. Donc un juge ou un greffe n'a pas à donner des instructions ici ou là en dehors de ces temps d'audience, non ?
C'est la théorie, ça. C'est la théorie. Bien sûr que tout le monde se parle.
D'accord.
Comme on voit au cinéma, c'est à peu près ça.
Alors ça, Juston, on n'a pas réussi à m'expliquer pourquoi, en fait, un juge n'est pas un fonctionnaire de la République qui est payé pour appliquer les décisions du peuple de l'Assemblée nationale, mais pourquoi on se retrouve face à des gens qui sont indépendants, parfois idéologues, qui n'exercent plus du droit, mais qui prennent une décision personnelle en créant leur propre loi, et contre lesquels il n'y a absolument aucun recours. Il n'a pas réussi à m'expliquer ça. Pourquoi ?
Non, mais Juston n'est pas dupe. Moi, je le connais un peu, parce que j'ai toujours lu ses articles, notamment à la Gazette du Palais. Juston, un jour, il me dit, quand j'ai envoyé au lance-flammes quelques bonnes vérités, il m'a dit, continuez, vous pouvez, parce que moi, je suis tenu au devoir de réserve. Continuez, ça leur fait du bien. Bon, et ben, donc, vous voyez, il n'est pas dupe. Hein.
Non, on sent qu'il a effectivement un regard assez désillusionné.
Non, puis c'est un mec qui est affûté, aiguisé, il comprend tout depuis le début, il a bien géré sa carrière de magistrat, c'est un vrai professionnel, mais c'est des gens comme ça qui manquent.
Vous savez qu'il est extrêmement réputé, quand je parle de lui autour de moi, y compris dans les services sociaux, il est connu, il est suivi, il est écouté. Hein,
ouais.
C'est quelqu'un qui a une aura et un respect naturel.
Bien sûr, mais moi je reçois aussi des confidences de certains services sociaux qui en ont marre de travailler, comme ce que je vous ai dénoncé tout à l'heure, par rapport à la direction de l'association qui récupère les dossiers des juges, parce que vous avez à la base des gens qui font le boulot de terrain
d'accord avec... Alors, je vais en profiter parce que j'entends souvent dessus, mais je dois quand même dire que plus on s'approche du terrain et plus on tombe sur des gens performants et bien intentionnés.
Ouais.
Je veux dire, le policier dans le commissariat, le problème, c'est pas lui. L'éducateur qui fait l'AEMO ou la personne qui vous reçoit au point rencontre, le problème, c'est pas eux. Eux, en fait, ils vont gérer les inconsistances et les choses qu'on leur envoie, d'ailleurs très souvent avec très peu de moyens, avec du pain sec et de l'eau. Le problème se situe beaucoup plus haut chez les administratifs et malheureusement dans les tribunaux, disons-le. Il y a le problème de prise de décision dans les tribunaux qui ne correspondent pas, ne serait-ce qu'aux volontés législatives.
Alors, prenons un exemple concret. Je vous ai envoyé un article qui concerne l'assistance éducative.
Oui, tout à fait.
En milieu ouvert.
Oui.
Bon, j'ai reçu sur cet article, au village de la justice, je crois, 65 000 réactions. Nom de Dieu. J'avais pas, je croyais qu'il y avait un zéro de trop. Mais 65 000, mais c'est monstrueux, ça veut dire qu'il y a un vrai problème.
Sur un petit écosystème avec quand même un milieu assez réservé, si vous voulez. Il faut quand même être plus ou moins spécialisé pour consulter ce forum-là.
Alors, oui, en plus, ça veut dire que c'est un phénomène massif qui est là, alerte.
La souffrance humaine à résoudre.
Le jour où je prendrai mon bâton de pèlerin pour essayer de sensibiliser le ministre, je lui dirai, mon cher, 65 000, tu pourrais faire un effort. Hein.
Vous avez des entrées auprès de M. Dupond-Moretti ? Vous pourriez porter des messages pour nous ?
C'est un confrère, hein, je l'ai bien connu, bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est un truc à préparer parce que il n'aime pas l'amateurisme. Hein. En plus, il s'est lancé dans un truc politique. C'était pas au début, c'était pas prévu, mais il essaye de le faire bien. Moi, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un mec qui a du courage. Parce qu'on l'a vu, à l'œuvre dans un certain nombre d'affaires. Bon, tout le monde n'aime pas son style, mais il a pris sur le dos. Il a pas pris la partie la plus facile. Hein. Mais il a du courage, alors il fait, en plus il a ses idées, hein. c'est un gars, il est comme ça, quoi. Il croit à ses idées, il a raison. Hein.
D'accord.
Bon. Bah, d'ailleurs, il est quand même assez impressionnant, parce que ça veut dire qu'il a convaincu Macron, il a convaincu Brigitte, non, c'est pas tout le monde, hein, et c'est le seul, tiens, citez-moi le nom de 5 ministres, lui, tout le monde le connaît. Mais les autres, c'est pas évident, hein.
Ouais, il y en a qu'on connaît, pas forcément pour de bonnes raisons d'ailleurs, mais bon. Ouais.
Oui, non, mais je veux dire, vous voyez, c'est un parcours et c'est un gars comme ça qui, si on arrive à alimenter.
Vous savez que dans ses déclarations, il ne s'est jamais, absolument jamais, intéressé au monde de la famille et les droits parentaux. Hein. On n'a jamais entendu ça. Et il y a eu des demandes associatives qui ont été portées pour filmer les audiences. Lui, il est allé directement, si vous voulez, à la retransmission télévisée des grandes affaires qui passaient, qui intéressaient l'opinion. Donc il s'est toujours placé comme s'il n'était intéressé que par la lumière, les grandes affaires, les médias, les choses vraiment extrêmement brillantes.
Moi, je sais que si on fait bien le boulot et qu'on lui amène quelque chose de costaud, présenté par des gens qu'il connaît, comme moi, il regardera. Mais ça, il ne faut pas se contenter d'envoyer quelques fléchettes. C'est un contentieux qui, au départ, ne le passionne pas. C'est un pénaliste, hein. Bon, c'est un pénaliste, il a eu une carrière fabuleuse.
Bon, les conflits familiaux mal gérés peuvent alimenter le pénal. Hein.
Bah, écoutez, en tout cas, moi, je suis persuadé que si on fait un truc bien construit, il fera un effort et il découvrira peut-être une matière qui, au départ, ne l'intéresse pas.
Bon, bah écoutez, bah on se parlera hors antenne.
Moi, j'en suis persuadé parce que je sais que c'est un gars de bonne volonté.
D'accord.
Et quand je dis que je le connais, ça fait longtemps que je le connais. Hein. Je l'ai connu, il n'avait même pas un an et demi de barreau à Lille, et moi j'étais déjà un peu plus rodé, donc il a découvert ma façon de travailler, et on est resté en bon terme, quoi. On n'est pas des amis proches, hein, mais moi je l'apprécie et je pense que c'est réciproque, quoi, parce que il a, voyez, c'est. Mais par contre, il faut quelque chose de costaud, quoi. Si déjà au départ ça le passionne pas, et encore une fois c'est un pénaliste, bon, ben faut lui donner la matière. Et puis après, on a des copains qui sont encore plus proches de lui. Vous voyez, on peut, il y a moyen d'organiser quelque chose.
Mais vous êtes la bienvenue. Je veux bien construire tous les dossiers du monde que vous voulez avec vous. J'ai des ressources pour ça, on est nombreux.
Mais c'est un boulot de longue haleine, hein, parce que d'abord il sera peut-être pas toujours ministre, il en aura peut-être marre un jour. Hein. Okay. Oui, c'est pas. Mais en tout cas, à mon avis, j'en parle parce que le hasard fait que je le connais, alors que je connaissais pas les autres ministres. Lui, je sais que c'est un gars de bonne volonté. Voilà.
D'accord.
Alors après, que ça soit pas sa tasse de thé, ben ma foi, personne ne peut dire qu'il s'intéresse à tous les sujets forcément. Hein. C'est vrai, c'est pas son truc. Bon.
D'accord. Ok.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Maître Jean Panier, est-ce que vous avez une actualité, des articles en préparation, des choses sur lesquelles vous voudriez communiquer?
C'est-à-dire, vous avez bien vu, je fais des piqûres de rappel sur le village de la justice.
Oui.
De temps en temps, je regarde un peu ce que les autres écrivent. Bon, en général, c'est toujours un peu pour dénoncer des choses qui sont pas normales. Hein, je suis pas le seul, hein, à écrire. Et puis les doctrinaires, je les entends même pas parce que franchement, on n'a pas besoin de ça, quoi. On a un vrai problème à traiter. On parle de gens qui se sont suicidés à un nombre effrayant et c'est tout, quoi. C'est la seule réalité qui compte.
Des personnes qui ont été endommagées et parfois des enfants endommagés.
Bah voilà. Alors l'aliénation, c'est vrai qu'il y a des abus. Il y a des gens qui voient l'aliénation partout alors que. On en est encore au stade de conflit de loyauté. Bon, mais c'est déjà le stade de conflit de loyauté, c'est déjà un vrai problème. Parce que l'enfant est embarqué dans un truc. Ah ouais. Évidemment, il est sous la coupe de celui. Il faut absolument que vous trouviez. Peut-être vous le trouverez sur Internet. Ça s'appelle « La dictature de l'émotion » par Ben Soussan et une consoeur, j'ai oublié son nom. Mais dedans, vous verrez des phrases terribles. la dictature de l'émotion.
Ouais, on trouve sur Internet. On trouve des juges qui disent c'est l'enfant de 10 ans ou 11 ans qui décide si jamais il veut voir ou non ses parents. Et l'enfant est influençable, effectivement. On le met en danger parce qu'il se fait influencer par le parent qui veut exclure l'autre pour régler ses comptes. Hein.
Et là, tous les coups sont permis. Jusqu'à
hein. Tous les coups sont permis, ça devient sale et ça endommage l'enfant. Et le problème, c'est de voir des professionnels non fermés qui acceptent de mettre la pression, cette pression-là, sur l'enfant, en fait. Leur intervention endommage l'enfant.
Exactement. Pourtant, ce sont des gens intelligents qui ont fait les mêmes études, qui seraient capables d'avoir du recul, et ben, ça ne marche pas.
Mais écoutez, il suffit de parler à un intervenant comme Maître Hamas ou autre pour se rendre compte que la plupart des intervenants ne connaissent pas cette matière, en fait. Donc, les avocats qui veulent se former sur des formations en psychologie et autres, et après, ils en sont arrivés à un stade où ils répètent les informations qu'ils ont apprises durant leurs initiatives personnelles de formation, d'auto-formation, à des magistrats, à des experts et à des avocats qui ne connaissent pas, en fait, les sujets sur lesquels ils traitent. C'est impressionnant. Oui. Il faudrait quand même professionnaliser un petit peu tout ça. Écoutez, si vous avez des suggestions, nous on est ouverts. Hein,
moi, ma suggestion, c'est... Aussi, oui. Mon thème d'attaque, ça a toujours été, c'est la politique du fait accompli. Le juge constate que essayer de renverser la vapeur, il croit, il est persuadé que ça ne va faire qu'aggraver la situation. Et il dit, laissons-la comme il est, tant pis pour le parent évincé.
Ah, mais ça, ils le font tout le temps. Ils le font tout le temps. Vous déménagez l'enfant, voilà. Vous partez avec, une audience 8 jours plus tard, il va dire pour ne pas bouger l'enfant. Voilà. Vous ne voyez pas l'enfant, il va dire, eh ben, vu qu'il ne le voit pas, on va écrire que, eh ben, il le verra moins. C'est tout le temps comme ça. C'est en permanence comme ça.
Un jour, Jacques Vergès, pour qui j'avais beaucoup d'estime, parce que c'était un mec un peu bizarre mais courageux, qui me disait, on en est arrivé, en parlant de ça, il dit, on en est arrivé au stade, quand tu perds un enfant comme ça, tu te sens obligé d'en faire un autre.
Mais je connais malheureusement des gens qui en sont à cette extrémité-là, parce qu'autrement, ils se détruisent et ils n'y arrivent pas.
Alors, dit par Jacques Vergès, qui est quand même pas un personnage ordinaire, mais qui était quand même un excellent confrère et absolument pas dupe de rien, il s'amusait, lui, parce qu'il disait, moi, je suis la tête de Turc.
Hein, c'était un juriste aussi, il connaissait son droit aussi, lui. Hein.
Oh là 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 là. Non, puis c'était un mec qui il adorait la provocation, parce qu'il disait, mais j'ai affaire à des gens qui méritent qu'on les secoue. c'est pas tout le monde, hein, Vergès. D'ailleurs, il faisait peur à plein de gens. Il y a plein de confrères qui n'auraient jamais osé prendre les dossiers qu'il a acceptés. Mais au moins, c'était un vrai avocat, quoi. Alors lui, il disait que si tu perds un gosse, t'as qu'une solution, t'en refais un autre. c'est pour dire à quel point c'est désespérant, quoi.
Ouais, ok.
En tout cas, fait accompli, colonne du temple, vous pouvez retenir ces deux notions. Les juges sont irresponsables, c'est une des causes de ce drame qui n'avance pas, enfin qui n'est pas traité. Et puis le fait accompli, c'est horrible, on ne devrait pas juger sur le fait accompli. Le juge devrait s'investir par rapport aux parents, quitte à être ferme et même autoritaire en disant « arrêtez vos conneries ». Et en plus, il a les moyens de faire pression sur les gens qui en font un peu trop, il a les moyens. Mais alors de là, les faire bouger, oh là là, non, là, ça va trop loin. Puis maintenant, on vit à une époque où on se mouille plus, quoi. C'est fini, quoi. Parce qu'il y a des collègues qui vont pas apprécier. Ils disent, pourquoi tu parles comme ça? C'est pas ton boulot. Laisse tomber. Vous voyez, déjà, entre eux, celui qui a annulé, par exemple, à Paris, une assistance éducative en disant, elle a servi à rien, donc j'arrête les frais. Mais les autres, lui, sont tombés dessus, en interne. On dit, mais tu nous fais de l'ombre, camarade. Nous, on continue. Ah, bah écoutez, c'est votre problème.
Ouais, vous savez, l'AEMO, ici en Dordogne, ils sont 7, par exemple. Moi, je pense qu'ils sont vraiment très bien. J'ai rencontré quelques-uns. Eux, ils ont envoyé des vraies formations et puis ils sont là pour des très bonnes raisons individuelles, hein, des très bonnes motivations. Ils essaient vraiment de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont. Je veux dire, c'est pas non plus la panacée. L'intérêt serait de gérer les conflits, comme disait Marc Juston et d'autres, hein, de gérer Gérard Poussin, qu'on a aussi interviewé ici, et Madame Masse, de gérer les conflits. Au départ, si on alimente les AEMO, si on alimente les juges des enfants, si on alimente les chroniques pénales et puis les pompes funèbres, c'est parce qu'on a mal géré les choses au départ, qu'on n'a pas appliqué les lois, qu'on n'a pas fait le travail nécessaire au tout départ des affaires.
Alors l'AEMO n'est là que pour faire durer. Quand le gosse, il doit rencontrer en milieu ouvert là, son parent pendant une heure, il baisse la tête, il ne veut pas parler à son père. L'autre, il est en train de se noyer, le père, il n'en peut plus, l'assistante sociale avec son air de cerbère le regarde d'un air, mais monsieur, quand même, vous voyez, le gars, il est foutu, quoi. Donc, c'est un échec total et ils n'ont rien trouvé de mieux. Ça veut dire quand même, on manque d'imagination en France, hein. Ah oui, oui. Alors quand un juge vient dire j'arrête les frais parce que c'est pire qu'avant, ah non, mais dire, enfin, quelqu'un qui a compris, quoi.
Ouais.
Et voilà. Et donc c'est routinier.
Alors, et puis c'est un des rares domaines où on condamne sans preuve.
Ah,
au pénal,
non,
on condamne avec preuve. Pour un viol, on condamne avec preuve. Par contre, au JAF ou au JDE, si quelqu'un lance une accusation, on suspend les droits parentaux et on condamne sans preuve.
Alors, normalement, il devrait y avoir l'effet boomerang, hein, c'est-à-dire la dénonciation calomnieuse, et bien même ça, ça ne marche pas.
Non, parce qu'en fait, les plaintes ne sont pas classées. Il faut attendre qu'elles soient classées pour faire la dénonciation calomnieuse. Et puis après, on vous dit qu'il y a un principe de précaution et autres. Les enfants ont grandi, voilà. Vous avez perdu. Parce que s'il y a une perte de lien avant 14-15 ans, il y a une forte probabilité que le lien ne se refasse pas.
Hein. Mais dans 100 affaires, vous allez trouver deux juges qui vont cogner, qui vont dire « Ah non, ça ne sera pas gratuit, monsieur là, ou madame. Là, c'est... Non, là, je vous condamne. Bing !» Mais il y en a 2 sur 100 qui vont faire ça.
Bon.
Ah ouais, on est loin de l'objectif, hein. Mais bon, encore une fois, on peut y arriver.
Bon, bah écoutez, c'est du vécu, c'était Maître Jean Panier sur RLP. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Je crois que vous êtes à Abidjan parce que vous avez une mission, vous sauvez une école, je crois, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Je suis en train d'essayer de sauver l'avenir d'une école qui est menacée d'expulsion dans des conditions assez incroyables. L'école est bâtie sur un terrain qui a été volé à l'État il y a 34 ans avec des faux documents. Enfin bon, vous voyez, c'est des trucs...
Et ils veulent faire
ça y est,
un
immeuble
à la place.
C'est
d'accord.
Fait.
Bon, très bien.
On a fait... Le Conseil d'État a annulé le certificat du monsieur qui était trop bien protégé, apparemment. Voilà.
Bon, très bien. Maître, merci beaucoup.
Et je vous en prie.
Si vous voulez porter notre parole, n'hésitez absolument pas. Nous avons des gens qui peuvent faire des rédactions de très bons documents avec nous. Nous serons très heureux. Nous prenons tout, absolument tout.
Bon, écoutez, on va y réfléchir parce que tout ça, c'est un travail minutieux. C'est une vraie mécanique à mettre en route.
Très bien. Merci, maître. Voilà. Bonne journée à vous. Merci.
À vous aussi. Merci. Au revoir.
Merci, au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Voilà, nous vous souhaitons donc de bonnes vacances. Cette saison est terminée, nous nous retrouverons à la rentrée. Passez des beaux moments avec vos enfants et vos petits durant l'été. Et n'oubliez pas, la réponse à une question courante qui vient durant les permanences et les réunions de soutien. Oui, bien sûr, vous avez le droit de savoir où sont vos enfants durant l'été quand ils sont avec l'autre parent, s'ils ne vivent pas avec vous. Vous ne cessez pas d'être parent durant les vacances. Et donc, que ce soit vous, monsieur, que ce soit vous, madame, dites à l'autre parent, en cas de séparation, où est-ce que vous allez en vacances avec vos enfants, parce que l'autre a le droit de savoir où ils sont, c'est normal et c'est la loi. Voilà. N'oubliez pas le site de l'association équitéparentale.com, ainsi que le blog avec les conseils juridiques et les statistiques sur sospapa24.com. Site dont le nom de domaine n'est absolument pas relié à l'association nationale, qui d'ailleurs malheureusement n'existe quasiment plus. La page Facebook de l'association Équité Parentale avec les actualités et les dialogues et vos commentaires, vos expériences, vos retours d'expérience et le soutien entre vous, entre nous. Enfin, cette émission sera ensuite sur un podcast YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre des petits likes, des petits plus, de la partager afin de nous aider à monter dans les algorithmes et de faire passer notre message. Allez, soyez sages, plein d'amour, occupez-vous de vos enfants quand vous avez la chance de pouvoir le faire et on se retrouve en septembre.
Famille, justice, enfance.